La Minute Politique sur
Ta Radio.
Nous sommes dans la dernière ligne droite des municipales et dans quelques jours, vous allez vous rendre aux urnes pour élire un nouveau maire. Si vous n'avez pas encore choisi, je vous laisse avec ces interviews réalisées par notre journaliste, David Schmitt. La première est celle de Monsieur Diligent, réalisée le 17 juin. Dans un instant, l'interview du candidat.
Sur Fort FM.
Bonjour Monsieur Diligent.
Bonjour.
Vous subissez depuis quelques temps des attaques sur les réseaux sociaux. Cela a eu un impact sur votre famille ?
Bah écoutez, c'est toujours des périodes plus compliquées pour la famille, je pense, de chacun. Quand la famille voit qu'un candidat, enfin qu'un proche, se fait attaquer, effectivement, ou critiquer sur les réseaux sociaux. Bon, mais d'un autre côté, je vous dirais sincèrement, si mes concurrents m'attaquent autant, c'est sûrement que je dois leur faire peur. Donc il y a toujours un revers.
Bien sûr, ouais. Des internautes veulent vous coller une étiquette d'extrême droite sur la base de votre proposition sur les migrants et marcher sur le terrain du RN. Mais ce serait un dossier qui concerne tous les candidats qui prendraient la mairie.
Bah effectivement, à partir du moment, apparemment, bon, on parle de sécurité aujourd'hui, on est tout de suite considéré comme voulant faire la course derrière le RN. Moi je regrette, mais tout parti a le droit et tout candidat a le droit de prendre des positions. Moi je pense que la sécurité et la propreté sont des priorités pour les Forbachois. On a encore vu aujourd'hui les problématiques de sécurité qu'il peut y avoir tant au niveau national avec Dijon par exemple, ou sur Forbach avec les voitures incendiées cette nuit à Petite Forêt. Je dirais quand même sincèrement que la sécurité reste quand même aussi une priorité dans ces périodes difficiles et qu'il faut que ce soit un sujet traité. Ensuite, en ce qui concerne la migration économique, ben c'est pareil, il faut quand même à un moment donné poser les problèmes, accueillir des gens qui fuient la guerre, je l'ai toujours dit, c'est normal, ça fait partie des devoirs d'accueil de toute personne civilisée. Après, moi je comprends pas pourquoi je dois compenser la différence de niveau de vie entre Forbach, enfin la France, et là plus particulièrement Forbach, et puis des pays des Balkans comme l'Albanie, le Kosovo ou la Géorgie. Donc, Forbach a déjà des gros problèmes d'endettement, de chômage. Moi je préfère m'occuper des jeunes de Forbach et des moins jeunes que de m'occuper des jeunes issus des Balkans qui ont qu'à se tourner vers les élus des pays d'où ils viennent. Moi j'ai pas un budget extensible à l'infini. J'ai 37 millions de dettes à Forbach qu'il faudra gérer, des projets qui sont laissés par l'accès aux municipalités qui sont extrêmement chers, qu'il va falloir arrêter. Et donc on a énormément de problèmes. Il y a aussi les problèmes de sécurité au niveau de l'Ibis, au niveau de l'hôtel de la Poste, parce que les propriétaires des hôtels, eux, ils engrangent l'argent, mais ils laissent les situations se détériorer. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut à un moment donné dire stop et revenir à quelque chose de raisonnable, sans avoir rien contre qui que ce soit. Moi, je suis pour le pacte républicain, l'accueil. Donc les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous, mais à un moment donné, on ne peut pas accueillir toute la misère de la planète, ça ne va pas.
Très bien, je vous en remercie. Des accusations portent également sur le fait que des colistiers auraient quitté le navire pour reprendre l'expression dite sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il exactement, monsieur Diligent ?
Voilà, encore, on est dans du fantasme total. J'ai eu l'un ou l'autre colistier qui a été malade, et donc ça a eu comme conséquence que, par exemple, une personne a dit qu'elle se mettrait un peu en retrait parce qu'elle a eu des gros soucis de santé, et toutes mes pensées vont vers elle, mais voilà.
Ça en a fait une polémique alors voilà, qu'elle n'est pas
lieu, quoi. Oui, disons, comme la personne n'est pas très en forme, elle a dit qu'elle allait se mettre un peu en retrait, et puis automatiquement, on en déduit qu'il y a une pléthore de gens qui auraient maintenant un problème de quelque sorte. Alors que la liste est toujours aussi complète, hein, que j'ai un plein soutien de mon équipe, enfin, je n'ai même pas besoin normalement de le dire, mais voilà, on est tous en train de travailler aujourd'hui à gagner, et on n'est pas du tout dans ces polémiques qui servent surtout, on va dire, mes concurrents, et qui sont alimentés par des gens proches de mes concurrents pour essayer de me fragiliser et de m'affaiblir, parce qu'ils ont tellement peur que je l'emporte. Voilà, il faut bien, ils essayent de faire feu de tout bois.
D'accord. Et sur ceux qui vous accusent d'un manque de présence pendant le confinement, quelle réponse leur apportez-vous ?
Alors, je vais vous dire ce que j'ai dit pendant le débat. Moi, mon équipe et moi, on a fait énormément de choses. Distribution de matériel médical, distribution de repas, aide à la personne. J'ai fait beaucoup de choses à distance aussi pour les personnes, en essayant d'éviter justement de contaminer qui que ce soit. Enfin, voilà, qu'il y a un risque. Donc, il fallait quand même rester raisonnable. Alors, je ne savais pas qu'il fallait se promener avec un journaliste avec soi à chaque fois qu'on faisait quelque chose pour quelqu'un ou qu'à chaque fois qu'on faisait une action pour une association ou autre. Si je l'avais su, fallait me le dire avant. Moi, j'ai fait, j'en ai fait, je pense, pas moins que les autres, mais sauf que j'ai fait le choix, moi, de ne pas le médiatiser, alors à tort peut-être. Je trouvais que c'était indécent, moi, personnellement, de me servir d'une période de crise pour essayer de me mettre en avant sur les municipales. Alors, c'était mon choix. Certains électeurs sont peut-être d'accord, d'autres peut-être moins, mais voilà. Et, donc non, on était présents, on a aidé, mais on n'en a pas fait la publicité.
Très bien. Depuis le déconfinement, vous êtes à nouveau sur le terrain, la campagne reprend. Quels sont encore vos objectifs cette semaine et la semaine suivante ?
Ah ben là maintenant, c'est des journées, des nuits très courtes et des journées très longues avec du tracting. Il y aura de la présence sur le terrain. Alors j'essaie quand même d'éviter le porte-à-porte, contrairement à certains de mes concurrents pour l'instant, parce que même si on nous a dit que tout est vert, j'essaie de passer je vais dans les quartiers, je vois les problématiques des quartiers, j'agis, il y a des vidéos qui vont encore sortir, il y a donc le track qui va sortir, il y a énormément de choses sur lesquelles qu'on va faire pour la visibilité du programme, de la candidature, voilà, rappeler au format choix ma présence pendant ne serait-ce que les 6 dernières années dans l'opposition, pendant que les autres, eux, on ne sait pas où ils étaient, une partie au moins d'entre eux, on ne sait pas très bien où ils étaient à chaque fois qu'il fallait manifester contre le sens unique, contre la taxe d'ordure ménagère, contre la réforme des rythmes scolaires, contre le non-ramassage des encombrants. Enfin bref, je pourrais vous en donner une liste très longue de toutes les choses sur lesquelles je me suis battu et où finalement, j'étais accompagné de mon équipe, mais des équipes en face, il n'y en avait pas. Donc voilà, ce sera ça effectivement le sens de la campagne qui reste.
Mais que dites-vous aux habitants qui ne souhaitent pas aller voter, soit parce qu'ils sont lassés de la politique en général ou par raison sanitaire, pardon ?
Moi, j'ai envie de leur dire plusieurs choses. Premièrement, je comprends l'angoisse après ce premier tour où finalement, alors je ne vais pas dire on nous a menti, mais en tout cas on nous a mal présenté les choses au niveau du gouvernement Macron et des structures généralement locales et décisionnaires. On nous avait dit c'est comme aller acheter une baguette d'aller voter. Alors on sait maintenant que c'était pas aussi simple que ça. Hein, et donc effectivement beaucoup de gens se sont rendus compte qu'il y a eu une partie de personnes qui ont été infectées à ce moment-là. Et ce mensonge de base ou ce manque d'information correcte de base a créé une angoisse après ça, et donc cette angoisse perdure encore pour le deuxième tour. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est bien sûr, venez voter, mais avec le respect des gestes barrières, avec les distanciations, avec les masques, en prenant son stylo, ramenez même le bulletin de vote du candidat, de préférence le mien, pour aller voter. Je veux dire, donc, les bureaux de vote, d'après ce que j'ai compris, sont organisés de manière à ce qu'il n'y ait qu'un bureau par pièce et qu'il y ait une entrée et une sortie différenciée. Donc, franchement, cette fois-ci, les mesures ont été prises pour réduire, mais alors considérablement, le risque. Et donc, je dis aux forbachoises et aux forbachois, en respectant toutes ces mesures-là, les risques de contamination sont quand même extrêmement faibles. Et donc, si vous ne voulez pas demain avoir le candidat de M. Macron, M. Cassaro, ou le candidat, soutenu par M. Macron, ou d'autres candidats qui ne feront que continuer la politique de M. Kalinowski, si vous voulez vraiment quelqu'un qui redynamise format, qui continue à présent pour vous et à vous accueillir en mairie, à suivre les dossiers, votez pour moi et mon équipe, on est compétents, on est présents, on croit en Forbach et on croit que les formations veulent autre chose aussi. Voilà.
Très bien. La deuxième partie de cette interview sera sur la sécurité. Selon vous, les Forbachois se sentent-ils en sécurité ?
Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, au vu des retours que j'ai eus sur les 6 dernières années, et même d'avant, puisque ça ne fait pas que 6 ans que je suis présent, mais 6 ans que je suis dans l'opposition, les Forbachois se rendent bien compte que la sécurité, la propreté, tout ça s'est beaucoup dégradé sur Forbach, et que demain, il faudra une vraie politique, doublement des effectifs. Il faut des patrouilles jour et nuit, donc 2 patrouilles de nuit sont prévues, une patrouille qui tournera régulièrement au centre-ville et une autre dans les quartiers, donc 2 patrouilles à chaque fois, première partie de journée et deuxième partie de journée, donc ce sera 6 patrouilles en tout, réparties sur la journée, armées, donc avec tout l'équipement, taser et autres, avec les formations. Et moi, par contre, comme je budgétise les choses, effectivement, j'ai dit que le carreau devrait être pris en charge par l'agglo et que l'argent, entre 300 et 400 000 euros par an qu'on économiserait, Les deux tiers seraient mis sur la sécurité et le reste serait mis sur la culture pour la création d'une, d'un nouveau FAC et puis d'autres actions culturelles. Donc voilà, donc sur la sécurité maintenant, puisque tout se touche un peu, on va dire, sur la sécurité, voilà, une vraie politique avec de la vidéosurveillance, avec de la verbalisation tout de suite dès qu'il y a des infractions. On finit les tapages, finit les jets de déchets, pas besoin de brigade verte, la police municipale interviendra tout de suite. Et mettre à fin à tous les désagréments, les cortèges, le cortège de mariage bruyant, enfin bref, je vous passe un peu tout ce que les formations subissent. Hein.
Oui. Pour répondre à cela, vous doublez le nombre de policiers municipaux, ce qui porterait le nombre d'agents à combien ?
Alors, le nombre de policiers municipaux serait une vingtaine, de policiers municipaux, je crois.
Ouais.
Voilà, donc, et ce serait une vingtaine, à peu de choses près, parce qu'il faut ajuster les brigades, c'est ça, donc je vous dis à peu près 20. Hein, voilà, donc. Plus l'équipement, bien sûr.
Et comment on passe d'une police non armée à une police armée ? Et si cela se faisait peur dans le sens où la violence appelle la violence ?
Alors, il y a énormément de villes qui sont gérées par des candidats, enfin par des maires qui sont de toute tendance politique, de gauche, du centre, de droite, qui ont décidé d'armer leur police municipale. Alors, c'est pas qu'on ait forcément une envie folle d'avoir un équipement d'armes dans les locaux de la police municipale. C'est surtout qu'on voudrait que la police nationale n'a plus les moyens d'accomplir l'intégralité de ses missions comme elle le faisait avant. La police nationale à Forbach a beaucoup de mal à avoir une brigade de nuit. La police nationale de Forbach n'a plus assez d'effectifs. Malgré le plan Valls, malgré ce qu'on a eu sous M. Collomb, on voit bien que l'équipe de Macron aussi a continué à réduire, en nous promettant toujours des sureffectifs chez nous, mais finalement, comme on a tellement réduit pendant longtemps, les sureffectifs, ça ne compense même pas ce qui est parti. D'accord. Et donc, les municipalités, si elles veulent pouvoir assurer la sécurité, qui est quand même la première des libertés pour les Forbachois, il faut que nous, on prenne ça en charge. Alors, ça a un coût, je vous l'ai dit, c'est budgété, on le fera, mais il faut de la sécurité pour les Forbachois.
D'accord. Vous voulez la vidéosurveillance. Aujourd'hui, vous estimez qu'elle est insuffisante en caméra, en agent. Y avez-vous un objectif chiffré en caméra et en agents de surveillance ?
Alors, pour les agents de surveillance, pour les caméras, il faut qu'il y ait constamment une personne devant la caméra.
Ouais.
Ce qui veut dire, en général, il faudrait un effectif à peu près, on va dire, de 6 à 8 personnes, suivant maladie ou pas maladie, mais on va dire, voilà. Donc, ce n'est pas forcément du personnel, on va dire, police municipale. Ça peut aussi être... Donc on verra comment on articule ça, mais en termes d'effectifs, ça fait encore 6 à 8 personnes en plus, c'est sûr, qu'il faut avoir pour surveiller les caméras. Parce que ça ne sert à rien à la vidéosurveillance. En plus, il faut s'il n'y a personne derrière la caméra, mais il faut aussi dire que en plus, le matériel devrait être de qualité. Il faudra investir un peu dessus, parce qu'aujourd'hui, les caméras sont de mauvaise qualité. Voilà,
d'accord. Et armer et équiper une police doublée et développée, cela a un coût et combien ?
Alors l'armement et les formations et le reste, on peut penser que sur les, on va dire, en plus des 205... Alors après, l'armement, c'est un investissement de base, hein. C'est pas tous les ans. Une fois que les armes sont là, c'est surtout après l'entraînement au tir, les boîtes de cartouches, voilà. Mais on peut compter à peu près, je pense, en formation, en équipement, puisqu'il faudra aussi des gilets pare-balles et des nouveaux véhicules, parce que moi, les gogo mobiles qu'il y a actuellement, c'est pas ce que je regardais. Vous pouvez après établir sur 100 000 euros sur un investissement de base, sur la première année, qui après sera simplement de l'entretien et du complément sur les autres années. Donc vous pouvez partir sur un mandat sur une moyenne à peu près de 20 000 euros par an. Donc
d'accord.
On reste toujours dans le budget qu'on avait on va dire de 250 000 à 300 000 euros qu'il faudra mettre dans la sécurité par an.
Oui.
Voilà, et là on y est.
On y est, quoi. La troisième partie de l'interview, c'est sur la migration et l'emploi. De nombreux Forbachois ont exprimé que les migrants représentent un souci. Vous, qu'en pensez-vous et quelles solutions apportez-vous concrètement ?
Alors effectivement, quand on dit migrants, il faut préciser, il y a les réfugiés de guerre, qui eux doivent être...
C'est plus ceux qui sont hébergés actuellement à l'état potable.
Voilà, donc plutôt les migrants économiques. Les migrants économiques qui sont des personnes qui effectivement viennent pour une différence de qualité de vie, hein, de niveau de vie, d'aide sociale, pour se faire soigner plus facilement. Je le redis, je ne leur en veux pas pour ça, mais nous, on n'a pas pour vocation d'accueillir toute la misère qui existe sur Terre. Et donc, moi, je veux d'abord me consacrer aux Forbachois, c'est ma priorité. Qu'il y ait des réfugiés de guerre qui arrivent et qu'on doive en prendre notre part, on est bien d'accord. Mais d'abord, les Forbachois et avant tout, les Forbachois. Donc, moi, je pense qu'il faudra agir fortement là-dessus. Il faut bien comprendre que ne serait-ce qu'au niveau des hôtels, parce que les migrants économiques ne sont pas que dans les hôtels, mais une bonne partie s'y trouve malgré tout. Tous les problèmes de tapage, il faudra les régler avant tout. Tous les problèmes de jet d'ordures par les fenêtres, où après on a eu des cafards et la crèche a dû déplacer, ce qui était lamentable. Tout ça, c'est des choses qu'il faudra régler. Et en même temps, il va falloir à un moment donné que le maire assume ses pouvoirs de police et ses pouvoirs dans le cadre des commissions de sécurité pour expliquer que ces hôtels-là, on n'en peut plus, déjà à la base. Et donc les personnes qui sont dedans, il faut qu'elles soient sorties des hôtels, mais aussi de la ville et aussi de l'aglo. Parce que nous, avec 3 points de chômage en plus, je le redis, et des problèmes d'endettement massif, on a d'autres problématiques à régler que de gérer ces problématiques-là. Ces personnes n'ont pas vocation à rester en France et à Forbach. Si la préfecture a d'autres points de chute, eh ben, ils verront. Mais moi, en tout cas, je vais activement me battre pour que petit à petit, pour les hôtels, assez rapidement, et pour après, même pour les logements qu'on a occupés comme ça, on voit de redispatcher ces gens ailleurs. Parce que franchement, nous, on n'a pas les moyens et on a d'autres choses à faire avec nos moyens que de s'occuper de toutes les problématiques internationales.
D'accord. Il semblerait que dans votre programme, vous vouliez mettre en place une sorte de préférence municipale pour les Forbachois. Dans quelle mesure, monsieur Dédigeant ?
Alors, elle est globale. Hein. Par exemple, au niveau de l'agglo ou de la ville, quand on doit faire des travaux, alors il y a un code des marchés publics, hein, je ne suis pas complètement idiot, je sais bien qu'il existe, mais dans toute la mesure du possible, pouvoir toujours faire appel d'abord aux entreprises locales, que ce soit au niveau municipal, au niveau de l'agglo. Toujours d'abord embaucher de préférence les gens qui ont les compétences suffisantes au niveau municipal ou au niveau de l'agglo quand on a des emplois publics à pouvoir.
Oui.
Toujours, voilà, donc tout ce qu'on peut dépenser au niveau local pour régler des problématiques, quand on a des dépenses à effectuer, de travaux ou autres, ou de l'embauche à faire, il faut que ça soit le plus local possible.
D'accord.
Je ne comprends pas pourquoi depuis des années on va chercher des gens à Strasbourg, à Nancy, à Metz, à Vich ou n'importe où, pour prendre des emplois ici, alors qu'on a plein de personnes compétentes qui sont au chômage informel.
Bien sûr. La quatrième partie de notre interview concerne l'urbanisme. Comment procédez-vous pour établir le double sens dans la rue des Moulins ?
Alors, et dans la rue des Jardins. Rue des Moulins,
alors,
rue principale.
Les Jardins, je pense que vous avez apporté déjà la solution avec les places en quinconce.
Oui.
Mais là, c'était surtout sur la rue des
Moulins. Oui, mais je ne voudrais pas que les gens de la rue des Jardins pensent que je les oublie. Donc, les quinconces, rue des Jardins, avec les places de parking en quinconce, et on retire les bus et les camions. Voilà, le rappel. Et pour la rue des Moulins et rue principale, un des problèmes qu'ils avaient, c'était les camions qui passent tout le temps.
Oui.
Donc, enfin, qu'il y a un double sens sur cette rue-là, c'est quand même assez normal, ça s'appelait rue principale. Donc, un double sens de voiture, oui. Tous les camions qui passaient pour la déchetterie de reste, on va faire une voie de contournement pour qu'il y ait le minimum possible de camions qui passent par ces rues-là, la rue principale et la rue des Moulins. Et donc, comme ça, on réduit, on va dire, les nuisances pour les habitants.
Oui.
Et le double sens en lui-même n'est pas un problème, parce que voilà, la route est déjà quasiment prédisposée. On touchera très peu aux places de parking. Par contre, la piste cyclable, on va la passer, comme c'est légalement prévu, même dans le cadre de la loi LOR, on peut le faire. On passera les pistes cyclables sur le trottoir avec un marquage au sol, comme rue Schleuser, d'un côté de la rue.
D'accord.
Et donc, on aura un double sens de nouveau opérationnel, mais avec beaucoup moins de camions que ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant.
Très bien. Dans le programme En rue et cœur de ville, il y a des choses définies et des choses modifiables. Quels changements apportez-vous ?
Alors, l'En rue, vaste sujet, mais enfin, je vais essayer d'être synthétique et court.
Oui.
L'En rue, c'est que de la destruction dans la vision de M. Kalinowski et dans la vision de M. Cassaro et dans la vision de mes concurrents. Voilà, c'est que de la destruction. Sauf M. Ombert, je veux bien le dire, parce que il a un autre projet que moi, mais voilà, il a une autre vision, mais au moins on ne garde pas le projet destructif.
Oui.
Alors qu'il faille détruire certains bâtiments comme la tour numéro 3 des Dahlias et même peut-être encore une autre tour des Dahlias, oui. Qu'on détruise encore un ou l'autre qui est en mauvais état, oui. Mais qu'on détruise des immeubles pour faire sortir les habitants de Wiesberg qui y habitent depuis parfois 50, 60, 70 ans, non. On va maintenir les habitants dans le quartier, on va réattribuer les fonds sur de la rénovation, sur des ascenseurs pour les personnes âgées, sur des papy-lofts, sur de la sécurité, parce qu'on va mettre aussi... moi, je veux une annexe de la police municipale dans le quartier, sur des aires de jeu, sur des aires de sport pour les jeunes, parce que c'est un quartier très jeune. Voilà, donc, vraiment, réattribuer, redistribuer les financements pour faire que, par exemple, sur le quartier du Wiesberg, le projet En rue soit affecté au cadre de vie, on gardera le centre social, on mettra pas de ferme pédagogique. Et pareil pour le Haut de Bellevue, là aussi sur le logement, il y a des choses qui seront faites avec l'argent de l'En rue. Donc je n'oublie ni le Haut de Bellevue, ni le Wiesberg. Ce sera moins de destruction et plus de rénovation et de cadre de vie.
Vous souhaitez arrêter Action Cœur de Ville à la phase 1 et prendre cet argent pour refaire des routes. Que seraient les phases suivantes pour vous ?
Écoutez, dans un premier temps, donc on passerait effectivement à deux voies sur la phase 1, ça c'est sûr, et on perdrait le parking de la mairie, ça jusqu'à présent on n'a rien réussi à faire contre, mais bon. On l'arrête à la phase 1 parce qu'il y a encore dans la phase 2 et 3 la rue de la Tuilerie qui disparaîtrait pour mettre un projet complètement débile de mettre des espaces verts en plein milieu alors qu'on perdrait une route et des places de stationnement. On perdrait l'ancien parking du Monoprix. Bref, des centaines de places, enfin à peu près 200 places de parking disparaîtraient sur Forbach entre le bas et le haut de la ville. C'est énorme. Et donc là-dessus, il va quand même falloir s'arrêter à la phase 1 pour refaire les routes qui est la priorité. Parce que les routes sont en très mauvais état à Forbach, donc là-dessus, les économies qu'on fait iraient là-dessus, sur de la rénovation urbaine un peu de centre-ville. Enfin bon, M. Steinweiss avait déjà fait une rénovation sur la ville, il faut surtout qu'elle soit propre.
Oui.
Et donc, c'est surtout ça, revoir le projet pour en refaire un projet de dynamisation urbaine, malheureusement avec un morceau en deux voies et un morceau en quatre voies, mais ça, on ne pourra rien y faire, dans un premier temps.
Vous voulez racheter des cellules en ville, les rénover, puis les louer à moitié prix. Vous avez ciblé déjà des cellules ?
Non, j'ai pas ciblé de cellules. Ça se fera en fonction déjà des ventes, parce que je ne force pas les propriétaires à vendre. Mais régulièrement, il y a des propriétaires qui mettent des cellules en vente. Avec le périmètre de sauvegarde, en plus, on peut être prioritaire pour les racheter. Et on peut choisir même le type de commerce qui s'installe. Donc pour éviter d'avoir 10 fois des banques, ou je ne sais pas, bref, un exemple, hein. Ne pas avoir tout le temps les mêmes commerces. Donc là aussi, on pourrait agir dessus. Alors le rachat des cellules pour les relouer après rénovation à moitié prix a l'avantage de casser les prix des loyers. Et ce serait, on va dire, 4-5 cellules par an qu'on rénoverait, voire plus, peut-être maintenant un peu à cause de Covid et de l'impact économique négatif qu'on va avoir. Mais il faut savoir qu'on a le meilleur programme quand même de développement économique qui est prêt pour l'après-Covid. Hein, donc voilà.
Question d'un internaute, la moitié du prix nécessiterait une uniformisation du mètre carré. Qui pourrait bénéficier d'une telle mesure car elle a un coût ?
Alors, nous, on n'a pas vocation, en termes de politique municipale, à influer le prix du marché directement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fixer, nous, ça c'est ma spécialité, parce que dans la fonction publique, j'ai fait de l'évaluation immobilière pendant de nombreuses années. Le marché se crée tout seul, c'est-à-dire que maintenant, si tout le monde veut louer à 2000 et s'il est propriétaire, s'il n'arrive pas à louer, c'est son problème, mais le prix du marché restera inférieur à ce qui est proposé, mais personne ne louera parce que c'est trop cher.
D'accord.
Et donc maintenant, et on verra que ceux qui louent souvent moins cher, ceux qui réussissent à louer, c'est louer moins cher, et donc c'est en termes de moyenne de location qu'on a un prix au mètre carré. Nous, en rachetant et en relouant, notre but n'est pas d'imposer un prix du marché et on ne peut pas le chiffrer. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer d'adapter le prix des locations au chiffre d'affaires actuel sur Forbach. Parce que le prix au mètre carré aujourd'hui peut sembler délirant, mais à l'époque où les houillères tournaient bien, ils arrivaient à le payer. Mais aujourd'hui, bien sûr, comme le chiffre d'affaires est faible, et donc nous, on n'a pas un impact direct de décision sur le prix au mètre carré, mais en cassant régulièrement le prix au mètre carré par local racheté, bien sûr qu'on a un impact, et on arrive à réduire la moyenne du coût au mètre carré sur Forbach des locations.
Très bien. La dernière partie de cette interview, ce serait sur les finances. Et une question qui revenait souvent, c'est où allez-vous faire des économies ?
Alors, vous l'avez déjà dit, pour les grands projets, on va faire des économies sur Action Cœur de Ville pour les routes.
Oui.
En rue, on va faire des économies pour faire de l'aménagement urbain, du logement social. Voilà, oui. Ça, je ne reviens pas dessus. Par contre, après, on va faire des économies pour les projets. Alors, par exemple, pour la police municipale, j'ai dit je transfère à l'aglo le carreau Seine Nationale qui coûte quand même entre 300 et 400 000 euros par an à la ville de Forbach. Après, c'est au carreau de voir s'il à l'aglo de voir si elle prend en charge ou pas. Mais moi, je considère que Forbach n'a plus les moyens. Mmh. Avoir une structure d'animation culturelle comme FAC l'été, en faire à nouveau, pourquoi pas, ça je suis pour, et on redistribuera une partie des financements là-dessus. Aider les autres structures culturelles, les galeries et autres de Forbach, la médiathèque, Tête de l'Art et autres, pour ne pas les citer, ou encore Odile Weidig qui fait plein de choses pour la ville, que eux aient un soutien supplémentaire au travers de ces économies, oui. Mais donc là-dessus, déjà on fait de l'économie qui va servir à la culture, mais aussi à la sécurité, parce que là, par contre, je m'en servirai aussi pour les dépenses de sécurité dont je parlais tout à l'heure. Donc là-dessus, déjà, on fait des économies pour ne pas avoir de dépenses supplémentaires.
Très bien.
Je dois encore dire que pour ce qui est des associations pour la création de la grande salle au frein de la vente foncière, puisqu'on se débarrassera d'une partie des locaux vétustes.
D'accord.
On reprendra des locaux d'associations qui sont anciens pour intégrer dans le nouveau local que je vais créer d'associations culturelles sportives de 2000 places. Ça, c'est pareil, on se servira de la vente du foncier pour récupérer. Donc, il y aura des ventes de foncier. On fera moins d'études, ce qui nous permettra de baisser la taxe d'habitation sur les locaux vacants. Enfin, c'est un vaste sujet. Donc, on va faire des économies à certains endroits. Donc, moi, mon programme, il ne coûte pas plus cher, pas un euro de plus au format choix par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Mais ça aura une autre,
dynamisme.
Voilà, ça aura un autre aspect que ce qui a été fait jusqu'à maintenant.
Très bien. Vous vous engagez à n'augmenter aucun impôt local ou une taxe locale si vous êtes élu maire ?
Ah oui, je veux absolument. Je m'engage à ne pas augmenter si tant est qu'on arrive à éviter de payer les 20 millions que M. Kalinowski veut nous mettre dessus avec l'ANRU et avec le cœur de ville. Moi, par principe, je n'augmenterai pas la taxe. Je n'augmenterai pas la taxe et je me battrai pour que sur les projets qui ont été prévus par la municipalité les plus coûteux, soit à nouveau, je le redis, revu à la baisse pour les coûts et qu'on arrive malgré tout à faire une belle politique d'investissement productif sans pour autant augmenter les impôts. Donc non, pas d'augmentation d'impôts.
Très bien. Question qui sera donc posée aussi à l'ensemble des candidats. Vous vous engagez à ne créer aucune autre taxe?
Non, voilà, je ne créerai aucune autre taxe.
Très bien. Quelle place aura la culture dans votre programme?
Alors je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, à la création d'une structure culturelle comme FAC l'été, l'équivalent, de l'aide à toutes les associations culturelles, augmenter, parce qu'en plus on mettra un système en place pour augmenter les subventions des associations qui animent la ville, donc à chaque fois qu'il y a une association culturelle qui par exemple fait régulièrement des animations, des vernissages et autres, aura forcément nouveau un peu plus.
Oui.
Je veux une grande salle de spectacle, on est toujours sur des salles de 800 places, oui. Moi je veux qu'on ferme certaines salles vétustes, je parle pas du CAC, mais certaines salles vétustes de Forbach. Vous avez par exemple l'ancien gymnase Corinec, vous avez les arts martiaux, enfin et d'autres.
Oui.
Et on va redispatcher ça sur une grande salle, qui sera une salle modulable, où il y aura de la culture le soir, puisqu'on pourra accueillir jusqu'à 2000 personnes en dépliant des gradins, ce qu'on n'a pas dans le coin, qui serait au format le cœur d'un mauvais est en matière culture, et on aura du sport dedans pendant la journée. Et donc on aura une grande salle de spectacle et des structures d'animation culturelle qui seront alimentées.
D'accord. Pour finir cet entretien, je vais vous poser encore une dernière question. Promettez-vous que vos mesures ne coûteront pas un euro de plus à la collectivité? On peut imaginer que l'ensemble du programme est entièrement chiffré. Et si oui, à combien?
Alors, comme je l'ai dit, je m'engage à ce que, oui, on n'est pas, qu'on n'augmente pas les impôts parce que mon programme ne coûtera pas plus cher que ce qui a été fait jusqu'à maintenant.
D'accord.
Maintenant, comment dire? C'est difficile de donner un chiffrage, on va dire, global de tout, parce qu'il y aura des aides de l'État, des aides du département, des aides de la région, qui vont venir se goupiller sur des programmes qui coûteront parfois cher, mais qui sont pris en charge aux 3/4 ou aux 80% par d'autres acteurs. Donc, donner un chiffrage de l'ensemble de ce qui sera fait, c'est quasi impossible pour aucun candidat.
C'est impossible même pour tous les autres candidats, parce qu'il faudrait qu'ils soient investis pour voir l'ensemble
Parce qu'il y a des choses qu'on supprimera, des choses qu'on maintiendra. Et donc, celui qui vous dit aujourd'hui, je peux vous donner un chiffrage global de ce que ça va donner, ne sachant lui-même pas avec l'ANRU et Action Cœur de Ville où il va, il vous ment. Je veux dire, voilà. Moi, je vous dis simplement, pas de mesures qui coûteront un euro de plus, effectivement, et pas d'augmentation d'impôts et de taxes.
Très bien. Sur ce, monsieur, on a terminé notre entretien. Je vous remercie d'avoir pris quelques instants pour Fort FM. Et à très bientôt, monsieur Dirigeant.
Merci de vous être pris le temps de m'interviewer.
Et tout de suite, une interview de monsieur Perron pendant qu'il allait à la rencontre des habitants. Notre journaliste l'a interviewé.
Sur Fort FM.
Bonjour monsieur Schmitt, voilà, je suis content qu'on puisse se revoir. Après cette période de confinement qui a duré assez longtemps, pour ma part en tant que professionnel de santé, donc j'ai redémarré le travail dès le 17 mars. Nous avons assuré donc tout ce qui était urgence médicale et chirurgicale par rapport à mon métier. Nous avons pu aider l'hôpital Mercy, puisqu'il y a eu un appel du ministère de la Santé. Donc nous avons fourni notre respirateur artificiel, notre monitoring cardiaque, différentes pompes à perfusion à Mercy. Nous les avons d'ailleurs, Mercy nous les a redonnés il y a une dizaine de jours. Avec la profession, donc, on s'est battu pour essayer d'avoir des surblouses, des calots, des surchaussures. C'était très difficile. J'ai eu une période où moi-même, j'ai dû travailler avec un masque chirurgical pendant une quinzaine de jours. Donc, on a vu les défauts de l'État, les défauts d'approvisionnement, avec même des privés qui se sont battus pour avoir des masques, avec des réquisitions de l'État par derrière. Donc, ça a été très, très mal organisé. Voilà, en post-déconfinement, l'activité a repris ses droits. À l'heure actuelle, nous sommes dans le cadre donc d'un deuxième tour qui ne sera plus comme le premier. C'est une nouvelle élection, une élection à un tour qui a lieu. Automatiquement, les esprits sont différents, on le voit lorsqu'on rencontre les gens, les différentes personnes. Et de ma nature, je dirais, professionnelle de santé, il va falloir un maire qui soit réceptif à la prochaine crise sanitaire qui risque d'arriver à l'automne et à l'hiver. Et je serai un maire proche de ses habitants et puis surtout en première ligne pour pouvoir pallier, je dirais, les carences de l'État, c'est-à-dire de telle manière à, au niveau déjà de la mairie, avoir des masques, des protections, des gants pour protéger la population et intervenir au niveau de l'hôpital. Alors ça sera court bien évidemment, mais de telle manière avoir un matériel adéquat et puis faire pression dans les mois qui viennent pour avoir des lits de réanimation donc à Marie-Madeleine. Sur cette élection à un tour, les compteurs ont été repositionnés et je dois dire, nous sommes maintenant plus que 4. Je compte sur mon électorat, je compte aussi sur le bon sens de la population pour venir voter en ma faveur.
Super, merci à vous, Monsieur Perron.
Merci.
L'interview des candidats se poursuit avec celle de Monsieur Humbert, réalisée devant la mairie de Forbach pour Fort FM.
Monsieur Humbert, bonjour.
Bonjour.
Donc merci de répondre à nos questions entre ces deux tours. Donc c'est la dernière ligne droite et je me permets donc de vous poser certaines questions donc, qui ont fait un petit peu polémique sur les réseaux sociaux, mais aussi des questions qu'on pose à tous les candidats. Donc la première question, c'est vous avez été le bras droit du maire pendant 12 ans. En quoi votre politique sera différente ?
Mais écoutez, son bras droit durant 12 ans, je ne sais pas. Comme j'ai eu l'occasion déjà de l'évoquer, ces dernières années au moins, on a quand même eu des différents très importants. Quoi. Oui. Ma politique est tout simplement différente sur un certain nombre de champs. Quoi. Je l'ai évoqué, que ce soit sur l'action cœur de ville, que ce soit sur les programmes en rue. Les deux programmes sont effectivement indispensables. Par contre, les orientations qui ont été prises ne me paraissent pas forcément les meilleures. Je pense notamment à la halle du cœur de ville, je pense à la ferme urbaine, qui pour moi sont plus des vues de l'esprit que des réels besoins par rapport aux Forbachois.
D'accord. Des questions de sécurité. Selon vous, les Forbachois se sentent-ils en sécurité ?
Écoutez, moi, personnellement, je me sens en sécurité ici à Forbach. Forbach, c'est ma ville, c'est ma ville que j'aime. Ceci étant dit, je suis aussi à l'écoute de mes concitoyens durant ces 12 ans de mandat. Je les ai accueillis régulièrement ici en mairie et notamment durant la campagne. Certains ont pu exprimer, effectivement, alors pas forcément le fait d'être en insécurité, mais surtout les incivilités qui sont quand même nombreuses. Que ce soit des jeunes qui s'attroupent, qui font du bruit, que ce soit effectivement des décharges sauvages d'objets encombrants, etc. Oui. C'est plus sur ces champs-là qu'il faut travailler, à mon sens. Quoi.
Très bien. Avez-vous la volonté de renforcer les moyens de la police municipale et de quelle façon ?
Tout à fait. Je l'ai effectivement indiqué dans mon programme. Moi, je souhaite renforcer la police municipale. Je souhaite augmenter les effectifs de manière régulière et jusqu'à 30% de l'effectif actuel qui viendrait en plus. Quoi.
D'accord.
Il y a effectivement des besoins par rapport à une police de proximité qui viendrait en complément de la police nationale, bien entendu, notamment oui. Les quartiers sensibles de la ville, les quartiers prioritaires de la ville, disons, par rapport à la police de sécurité du quotidien, quoi. Oui. Et notamment pour sécuriser le soir aussi les commerces quand ils ferment, où on sait qu'il y a des fois quelques désagréments.
Il y a certains candidats donc, qui ont émis que les caméras de surveillance avaient une très mauvaise qualité. Pour la vidéosurveillance, quelle amélioration apporteriez-vous ?
Alors, les caméras ont été rénovées régulièrement tout au long de ces deux mandats. Quoi, hein. Je rappelle que quand même que quand nous sommes arrivés en 2008, il y avait 3 caméras qui couvraient la ville. On en a 69 actuellement. Et on n'a pas justement, sur le dernier mandat, on en a installé quelques nouvelles, mais on a surtout renouvelé les plus anciennes pour que la qualité soit meilleure. Ce que je pense devoir faire, c'est effectivement acquérir plus de caméras mobiles. La problématique des caméras, c'est qu'une fois qu'elle est installée, ben, on sait où elle est, et c'est effectivement l'effet dissuasif a lieu. Oui. Par contre, les incivilités ou autres problématiques se déplacent du coup à un autre endroit. Donc il faut pouvoir avoir des caméras mobiles, hein, qui soient cachées, et qu'on puisse installer régulièrement, même si un arrêté, bien sûr, doit informer la population de l'installation de ces caméras, oui. Et qui permettent à ce moment-là d'être plus efficaces.
Très bien. Question sur la migration. De nombreux forbachois ont exprimé que les migrants représentaient un souci. Vous, qu'en pensez-vous et quelles solutions apportez-vous concrètement ?
Alors, c'est clair que lorsqu'on parque des familles dans des hôtels, comme c'est le cas actuellement à Forbach,
c'est ça, oui.
Ça ne peut poser que des problèmes de cohabitation avec les riverains. Quoi.
Oui.
Donc il faut déjà, la première chose à dire, c'est que ça relève effectivement la compétence de l'État. Donc il faut que le maire ait une action volontariste auprès du préfet, jusqu'au ministre s'il le faut, et encore au-delà, pour qu'on arrête effectivement de ramener des populations de réfugiés ou de migrants ici à Forbach.
Oui.
Ça, c'est le premier élément. Ensuite, je crois qu'aussi, les personnes qui sont là, il faut pouvoir les accueillir dignement, dans des conditions dignes, et qu'il y ait un véritable accompagnement de ces personnes-là, pour qu'à terme, elles puissent s'insérer, pour celles qui, en tout cas, ont vocation à rester en France. Ceux qui doivent partir, ben, on appliquera la loi, hein, ils doivent partir. Bien et sûr. Ceux qui ont vocation à rester, ben, il faut qu'ils aient un accueil digne et un accompagnement vers une insertion sociale et une insertion ici en France.
Merci pour ces précisions. Vous avez dit donc que vous avez quatre nouveaux axes sur votre programme. Parlons en premier de l'axe santé. Quelles sont pour vous les nouveautés de cet objectif ?
Alors, ce ne sont pas directement de nouveaux axes, c'est des axes qui existaient déjà dans mon
D'accord.
programme, mais c'est clair que l'actualité récente liée à la crise sanitaire fait que c'est, et la crise économique, malheureusement, qui s'annonce elle aussi, fait que ces axes-là prennent encore plus d'importance que par le passé. Effectivement, au niveau de la santé, ben, je crois que ça a été dit et répété, il faut absolument défendre l'hôpital de Forbach. Quoi. Oui. Bien sûr, je rends aussi hommage au personnel soignant et au personnel de l'hôpital en général, quoi, qui ont fait quand même un travail formidable durant cette crise sanitaire. Mm-hmm. Je pense aussi qu'il faut pouvoir revaloriser leur rémunération, c'est absolument indispensable. On a besoin aussi de soulager l'hôpital à travers des maisons de santé. L'hôpital Marie-Madeleine a lui-même un projet d'installation de maisons de santé juste à côté de l'hôpital. Ce projet, il faudra le soutenir. Dans le cadre de l'ANRU, il est prévu aussi l'installation d'une maison de santé dans le quartier du Wiesberg. Là aussi, ce projet-là devra aboutir, quoi. Et de manière plus générale, il faut qu'on favorise l'installation de médecins en ville et aussi le lien entre la médecine de ville, justement, et les soins à l'hôpital.
Très bien. Et sur l'économie locale ?
Alors, l'économie locale, comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà, il y a des mesures immédiates qu'il faut prendre de soutien suite à la crise, notamment pour l'ensemble des commerces ou des artisans qui ont fermé durant 55 jours, ou même plus pour certains, lors de cette crise. Ces mesures-là, elles sont lesquelles ? C'est déjà d'une part une exonération pour les cafetiers et les restaurateurs des droits de terrasse.
D'accord.
Donc il n'est pas besoin de payer cette année les droits de terrasse. Il existe aussi une taxe sur les enseignes extérieures, la publicité des enseignes extérieures. Là aussi, je souhaite qu'on puisse exonérer les commerces qui étaient fermés durant la période de cette taxe-là, quoi. Et le troisième élément, c'est un élément qui a triple vocation, c'est effectivement mettre en place des bons d'achat pour la population forbachoise, ceux en tout cas qui sont plus en difficulté. Ces bons d'achat seraient à dépenser dans les commerces de Forbach qui ont fermé durant la crise. Donc ça redonnera du pouvoir d'achat, ça permettra aussi donc à relancer les différents commerces qui étaient fermés, leur apporter de l'argent supplémentaire. Et je compte aussi associer justement les associations forbachoises à cette démarche-là, qui elles connaissent bien les publics les plus en difficulté et peuvent œuvrer avec la mairie pour la distribution de ces bons.
Très bien. Et sur l'emploi ?
Alors, sur l'emploi, c'est un vaste problème, quoi. L'emploi se crée à travers le développement économique, hein, et on fait le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure. La compétence économique relève de la communauté d'agglomération de Forbach.
Oui.
Je crois qu'il est important qu'on puisse installer une véritable cellule de développement économique au sein de la communauté d'agglomération. Alors cette cellule existe, mais à mon sens, elle n'est pas assez développée. Il faut lui donner plus de moyens. C'est en faisant venir des entreprises ici à Forbach, en aidant bien sûr celles qui sont déjà là, en faisant venir de nouvelles, qu'on pourra créer de l'emploi. Et le deuxième axe, en dehors du développement économique, c'est aussi pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, pardon, c'est le développement de l'économie sociale et solidaire.
Oui.
Il faut travailler avec ces structures qui existent déjà sur Forbach, je pense à Emilius, je pense à la régie de quartier, je pense à la ITBH, etc. Oui. Et il y a tout un champ d'activités sur lesquelles elles peuvent travailler. Je pense notamment à la propreté de la ville, en soutien aux équipes municipales. Je pense aussi aux liens intergénérationnels pour les personnes les plus âgées qui ont besoin d'un coup de main, ne serait-ce que pour du bricolage ou autre, etc. Je pense que sur ce champ-là, on a effectivement du travail à faire, et notamment à travers du dispositif du territoire zéro chômeur de longue durée, avec des financements qui viendraient de l'État à ce moment-là.
D'accord. Et sur l'environnement ?
Alors, l'environnement, j'y inclus effectivement le cadre de vie aussi, hein. L'attractivité d'une ville, on a parlé de développement économique, c'est aussi le cadre de vie de cette ville, quoi. C'est les espaces verts, c'est effectivement des voiries en bon état qui sont importantes. Et alors Forbach, à lui tout seul, ne pourra pas sauver la planète par rapport au réchauffement climatique, mais je pense qu'il peut y apporter sa contribution, notamment à travers des mesures d'économie d'énergie, en isolant les bâtiments municipaux, hein, ce qui permettra aussi de faire travailler les entreprises locales, quoi. Et tout simplement, on a une politique globale de préservation de l'environnement qu'il faut mener à travers la politique municipale.
Si le souhait maintenant des habitants, c'est des questions d'urbanisme, si le souhait des habitants de la rue des Moulins est que le double sens soit rétabli, comment procéderiez-vous ?
Je l'ai évoqué lors de la campagne aussi. Moi, ce que je souhaite à ce moment-là, c'est reprendre l'avis des habitants. Si je suis sollicité... Alors, j'y étais durant la campagne, j'y avais déjà été avant, mais durant la campagne, à la rue des Moulins, à la rue des Jardins. Et c'est vrai que les avis sont divergents. Oui. La rue des Moulins, en général, les gens sont plutôt satisfaits, la rue des Jardins, nettement moins. D'accord. Moi, je consulterai à travers un référendum local la population du quartier pour leur demander leur avis, parce qu'on a trop décidé, je pense, à certains moments à leur place, et je demanderai leur avis, et en fonction de leur avis, c'est là qu'on agira.
Et dans le programme En rue et cœur de ville, il y a des choses définies et des choses modifiables. Si vous êtes élu, quel changement apporteriez-vous ?
C'est clair que des choses ont été signées.
Oui.
Ceci étant dit, nouvelle municipalité, avec la légitimité que lui apporteront les Forbachois à travers l'élection, pourra renégocier avec l'État un certain nombre d'éléments. Je l'évoquais en début d'entretien, je pense à l'affaire urbaine, je pense aussi à la halle de cœur de ville. Oui. Ces projets-là, moi, je souhaite les abandonner et réorienter l'argent que la municipalité aurait dû dépenser sur ces projets-là vers d'autres éléments qui sont effectivement le cadre de ville, entretien des voiries ou sur d'autres projets liés à ces différentes actions.
Donc, question finance. Où allez-vous faire des économies, dans quel secteur et comment le réduire la dette de la ville ?
Dans un premier temps, il ne s'agit peut-être pas de faire d'économies, parce que on l'a bien vu au niveau national et l'ensemble des pays.
Dans le contexte actuel, c'est très difficile.
Effectivement, faire des économies dans le contexte actuel me paraît difficile. À terme, il faudra bien entendu en faire, quoi.
Bien sûr.
Et je veux dire, il faut pouvoir réexaminer l'ensemble du budget et point par point, voir quelles sont les dépenses absolument nécessaires et celles qu'on pourrait pouvoir réduire. Mais la baisse de la dette, les économies, ce n'est pas ma première priorité en tant que futur maire, si je suis élu. Ce sera effectivement de relancer l'économie et de redonner un nouvel élan à cette ville de Forbach.
Vous engagez-vous à n'augmenter aucun impôt local ni aucune taxe locale ?
Oui, je l'ai dit durant la campagne et je maintiens cet engagement. Je n'augmenterai pas les impôts qui sont déjà relativement importants en Forbach, même si depuis 12 ans maintenant, ils n'ont pas été augmentés. Ils restent très importants, très forts, et il ne faudra pas les augmenter lors du mandat à venir.
Vous engagez-vous donc à ne créer aucune autre taxe ?
Non, effectivement.
Et quelle place aura la culture dans votre programme ?
La culture est quelque chose d'important, c'est déjà ce qui réunit les hommes,
Oui.
Alors, c'est ce qui permet effectivement que les différentes cultures qui sont présentes ici à Forbach puissent mieux se connaître et
tout
mieux
fait.
Pouvoir s'apprécier, créer du lien, du
créer
lien
de
social, de la cohésion
voilà.
sociale, tout à fait. Oui. Et la culture est aussi un élément du développement économique. Je veux dire, une entreprise qui va s'installer, elle veut que dans la ville ou à proximité de la ville où elle s'installe, il y ait effectivement une offre culturelle qui puisse satisfaire les personnels, les cadres, etc., qui pourraient être recrutés au sein de cette entreprise. Donc, il faut pouvoir soutenir, bien sûr, tous les lieux de culture municipaux, la médiathèque, etc., soutenir le cinéma et, bien sûr, aussi le carreau scène nationale qui est absolument indispensable.
Très bien. J'ai eu vent que M. Kalinowski allait donc donner son soutien à M. Cassaro et l'annoncerait d'ici demain. Qu'en pensez-vous de ce choix ?
Écoutez, c'est son choix. Ça prouve bien que M. Kalinowski n'est plus vraiment à gauche,
Oui.
Et c'est peut-être aussi ce qui a généré pour partie cette séparation entre lui et moi au cours de ces dernières années, Et je n'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus. C'est son choix, c'est son droit. Il soutient qu'il devait soutenir. Mais c'était clair, de toute façon, depuis le début de la campagne, que moi, il ne me soutenait pas.
D'accord. Donc pour vous, est-ce qu'il y aurait une division de la gauche ?
Non. Pour moi, à partir du moment où le maire soutient une liste de droite et du centre, pour moi, il n'est plus à gauche. Donc il n'y a pas de division de la gauche. J'invite tous les électeurs qui sont de gauche, qui partagent les valeurs qui sont les miennes, bien sûr, à voter pour moi.
Très bien. Je vous remercie de cette interview pour Fort FM.
À bientôt, monsieur Humbert, et puis bonne chance pour dimanche.
Merci beaucoup, merci à vous pour cette interview.
Et pour terminer, nous allons entendre le message du dernier candidat, monsieur Cassaro.
Monsieur Cassaro, bonjour.
Bonjour.
Merci de prendre quelques instants pour répondre à quelques questions sur notre radio.
Merci à vous pour votre invitation.
Donc, question sécurité. Selon vous, les Forbachois se sentent-ils en sécurité ?
Alors, on ne peut pas répondre à cette question parce que je pense que la réponse serait différente selon les Forbachois qui répondent. Néanmoins, la municipalité en place doit tout faire pour assurer la sécurité des Forbachois. Et notamment, nous, ce que nous proposons, c'est de faire en sorte que la police municipale coopère davantage avec la police nationale.
Oui.
Et c'est pour cette raison que nous proposons la mise en place de patrouilles mixtes, donc police nationale, police municipale, ce qui permettrait à la fois à la police nationale de bénéficier d'informations de terrain de la police municipale, et par ricochet, ça permettrait à la police municipale de monter en compétence. Nous souhaitons aussi pouvoir rendre encore plus efficaces les interventions de la police municipale en mettant en place une hotline, donc un numéro de téléphone direct relié à la police municipale pour qu'elle puisse intervenir en cas d'incivilité, en cas de déchets sauvages, en cas d'insécurité du quotidien, etc. Aussi, on a envie de rassurer les Forbachoises et les Forbachois au sujet des cambriolages. Et pour cela, on propose la mise en place du dispositif voisin vigilant.
Oui.
Voisin vigilant, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est la mise en réseau de voisins d'un pâté de maison, d'un lotissement ou d'un quartier. Ensemble, ils peuvent plus facilement détecter les comportements suspects ou les individus suspects.
Oui.
Et donc, ils peuvent les déclarer à la police et faire en sorte que la police puisse ensuite intervenir dans ces cas-là. En France, en moyenne, les lotissements qui ont mis en place ce dispositif ont vu le nombre de cambriolages baisser de 40%. Donc il faut à tout prix l'expérimenter à Forbach. En parlant de sécurité, il faut aussi parler de sécurité routière.
Oui.
Parce qu'on connaît à Forbach un certain nombre de routes où ça roule trop vite. Je pense par exemple à l'allée des conifères, à l'allée des sapins, à l'allée du rond-point au Brouhers, la rue Henri Kaufmann et la rue Bauer à Bellevue, la rue du Bois, la rue du Puy-Trois au Kreuzberg. Voilà, je pourrais encore citer plein de rues. C'est en général des rues qui sont en ligne droite.
Oui.
Et donc, il faut mettre en place des systèmes de ralentissement. Alors, des coussins berlinois ou des gendarmes couchés, parce que justement, contrairement aux dodanes, ça ne fait pas de bruit.
Oui.
Et ça ralentit tout autant. Et il faut aussi pouvoir accentuer les contrôles radars.
Oui.
Parce qu'une fois qu'on verbalise les auteurs des excès de vitesse, eh bien, du coup, ils réfléchissent ensuite à deux fois avant d'appuyer sur le champignon. Oui.
Avez-vous la volonté de renforcer les moyens matériels de la police municipale et de quelle façon ?
Ce qui est certain, c'est que si nous sommes élus, il va falloir réaliser un diagnostic des équipements de la police municipale, vérifier notamment si la vidéosurveillance fonctionne bien, si toutes les caméras fonctionnent bien. Si ce n'est pas le cas, faire en sorte qu'il y ait une intervention pour qu'elles soient toutes opérationnelles. Regardez aussi le parc automobile de la police municipale et s'il y a lieu de le changer, on le change parce qu'il faut globalement que la police municipale puisse bénéficier d'un équipement moderne.
Oui. Question migration. De nombreux Forbachois ont exprimé que les migrants représentent un souci. Vous, qu'en pensez-vous et quelles solutions apportez-vous concrètement ?
Alors, plus précisément, donc on parle de la situation actuelle de l'ancien hôtel Ibis.
Tout à fait.
À Mützbichren. C'est un hôtel qui est occupé par des demandeurs d'asile. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une compétence communale, ce n'est pas non plus une compétence intercommunale, c'est une compétence de l'État, et c'est le préfet qui décide de loger ces demandeurs d'asile à cet endroit.
D'accord.
Alors, évidemment, nous pensons que c'est une mauvaise solution, parce que on y a créé un ghetto,
oui.
Et moi qui suis attaché à une valeur comme le respect de l'humain, je ne peux accepter cela. Je ne peux pas accepter cela pour cette population, parce que ce n'est pas un accueil qui est digne de ce nom. Et ce n'est pas acceptable non plus pour le voisinage, pour qui cela cause un certain nombre de désagréments. Donc il va falloir demain que la municipalité travaille de concert à la fois avec l'État, mais aussi avec des acteurs sociaux, comme la Fondation Abbé Pierre, pour faire en sorte que ces demandeurs d'asile ne soient pas logés qu'à un seul endroit, qu'il puisse être logé dans d'autres endroits à travers la Moselle-Est et éviter la constitution de ghetto. Il faut favoriser bien sûr l'insertion de ces personnes et faire en sorte que les enfants soient scolarisés dans de bonnes conditions.
Merci. À la suite de la crise sanitaire maintenant, ce sont vos actions et votre présence sur le terrain qui vous ont mené à rédiger les 35 nouvelles propositions.
Alors, évidemment, la crise sanitaire qu'on a connue, elle a eu un certain nombre de répercussions, oui. Notamment des répercussions économiques oui. et sociales. Et on s'est rendu compte que toutes les transitions qui étaient en cours dans notre société se sont accélérées avec cette crise. On peut parler notamment de la transition numérique,
oui.
et notamment un certain nombre de nos concitoyens ont expérimenté les outils digitaux à titre privé, notamment pour la visioconférence avec les proches, puisqu'on était séparés de nos familles pendant cette période de confinement, mais également la visioconférence dans le cadre du télétravail, parce que beaucoup de nos concitoyens ont dû télétravailler. Transition énergétique aussi, parce qu'on s'est rendu compte, avec le confinement, que la nature pouvait reprendre ses droits, et nos concitoyens se sont rendus compte que la qualité de l'air, la qualité de l'alimentation, c'était très important. On pourrait aussi parler d'autres transitions, comme la consommation locale, qui, je pense, va s'accentuer, et la relocalisation d'entreprises, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui, à un moment donné, étaient parties en Asie, qui maintenant vont certainement revenir en Europe. Il faudra que le Grand Est soit suffisamment attractif pour en attirer un certain nombre.
Oui.
Et ensuite, il faudra qu'au sein du Grand Est, l'agglomération de Forbach soit suffisamment attractive pour accueillir de nouvelles entreprises. Et donc, sur la base de ces constats-là, on a effectivement construit de nouvelles propositions sur la santé, sur l'emploi, sur l'environnement, sur la solidarité et sur l'éducation. Effectivement, vous avez évoqué les actions de solidarité que nous avons mises en place. On est parti du principe qu'en tant qu'acteur public, nous devions prendre nos responsabilités et faire en sorte de faciliter la mise en relation entre ceux qui veulent aider et ceux qui étaient dans le besoin. Et c'est pour ça qu'on a, voulu mener des actions plus particulièrement auprès du personnel soignant.
Et pouvez-vous justement nous donner très brièvement le contenu de ces 35 propositions ?
Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, en ce qui concerne la santé, nous souhaitons que la municipalité puisse être proactive dans la protection des Forbachois, et nous proposons la création d'une réserve municipale de masques pour faire en sorte de distribuer rapidement des masques au cas où il y aurait une deuxième vague du Covid-19. Ensuite, nous souhaitons à tout prix défendre l'hôpital Marie-Madeleine et profiter du plan Ségur qui a été lancé par le ministère de la Santé pour obtenir à Forbach 8 lits de réanimation. Parce qu'on a actuellement 8 lits de réanimation à Saint-Gobine, 8 à Saint-Avold. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'y en ait pas à Forbach, d'autant plus que la crise a prouvé que le besoin existait. Et enfin, sur la santé, on veut aussi pouvoir développer la coopération transfrontalière, et notamment en créant une zone d'accès aux soins transfrontaliers entre la Moselle et la Sarre. Deuxième point, l'emploi. Donc nous souhaitons soutenir les commerçants, les artisans, les entreprises à franchir justement le cap de la transition numérique et de la transition énergétique afin qu'ils soient plus compétitifs, qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires et qu'ils puissent créer de l'emploi, parce qu'une entreprise qui augmente son chiffre d'affaires, qui est en situation de croissance, c'est une entreprise qui, in fine, embauche. Et on l'a vu, pendant cette période de confinement, les commerçants, notamment, se sont adaptés. Ils ont mis en place des activités de drive, de commerce en ligne, de livraison. Il faut que les commerces puissent poursuivre ces activités-là en même temps que leur activité normale, parce que du coup, ils peuvent proposer à leurs clients plusieurs canaux de distribution. Donc, c'est plusieurs possibilités pour le chiffre d'affaires. Troisième point, c'est donc l'environnement, notamment par le biais de la consommation locale, parce que quand on met en place une consommation locale, on assure la qualité de l'alimentation. Il y a un bilan carbone qui est moins important. Et donc, nous souhaitons notamment implanter au cœur de ville un point de vente fermier et bien sûr pouvoir accompagner les Forbachois qui souhaitent s'investir dans le maraîchage. Et puis, on veut créer un conseil de défense écologique qui aurait un droit de regard sur tous les projets structurants de la ville. Et nous souhaitons également que la collectivité est une démarche éco-exemplaire, parce qu'on ne peut pas promouvoir l'environnement si la collectivité elle-même ne fait pas des efforts, notamment, par exemple, en termes de réduction de papier.
D'accord.
Quatrième point, c'est la solidarité.
Oui.
Nous souhaitons implanter à Forbach une maison de la solidarité qui serait un point de rencontre et un point d'accueil unique pour toutes les personnes dans le besoin, les personnes les plus démunies, les victimes de violences conjugales. Nous souhaitons aussi avoir une action particulière auprès des seniors, faire en sorte qu'ils puissent maintenir un lien social permanent, ce qui évite un glissement de l'état de santé. Et nous souhaitons lancer un plan canicule à l'échelle communale, dans les quartiers, avec des distributions de brumisateurs, d'eau fraîche, etc. Dernier point, c'est l'éducation.
Oui.
Parce qu'on s'est rendu compte, pendant cette période, que puisque les écoles étaient fermées, certains écoliers n'ont pas été en cours 2 voire 3 mois, donc les inégalités se sont creusées. On a aussi remarqué une fracture numérique entre d'un côté les familles qui avaient le bon équipement, la bonne connexion Internet, l'espace suffisant chez eux, et les familles qui n'avaient pas tout ça.
D'accord.
Donc là, il y a 2 actions à mener. La première, c'est du soutien scolaire dès cet été pour ceux qui ont pris du retard. Et la deuxième solution, c'est de faire en sorte de créer des mini-espaces multimédia dans les quartiers, dans les centres sociaux, dans les foyers, pour que les familles puissent accéder à du matériel de pointe.
Très bonne idée, oui. Question urbanisme. Dans le programme En Rue et le cœur de ville, il y a des choses définies et des choses modifiables. Si vous êtes élu, quels changements apportez-vous ?
Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'action Cœur de Ville, qui est une occasion historique pour redynamiser notre centre-ville, donc ce serait totalement incongru de passer à côté de cela, nous souhaitons nous mettre le paquet sur la rue nationale. Et nous voulons lui donner une nouvelle identité avec une ville haute consacrée au commerce,
oui.
Le commerce de différenciation, le commerce de niche qu'on ne trouve pas dans les zones, et avec notamment en mairie un manager de centre-ville qui sera là pour fédérer la vie commerçante, attirer des nouveaux commerçants. Le milieu de la ville, donc du restaurant Jean jusqu'à la médiathèque, qui serait consacré à l'artisanat, à la culture et à l'animation, parce que vous avez la place Aristide Briand qui se prête très bien à cela.
Oui.
Et on sait que s'il y a régulièrement des festivités dans une ville, ça attire du flux et donc ça rejaillit positivement sur les commerces autour. Et enfin, le bas de la ville, nous souhaitons en faire un pôle de santé, avec d'ores et déjà la maison médicale que j'ai accompagnée en tant que conseiller régional, le laboratoire, la pharmacie, etc. Parce que lorsque des Forbachoises et des Forbachois viennent se soigner au centre-ville, ils ne feront pas que passer par médecin, elles passeront aussi dans le centre-ville, elles pourront aller chez les artisans et chez les commerçants qui sont dans notre cœur de ville. Et par-dessus tout, il faut que notre centre-ville soit davantage touristique. Et nous souhaitons, par le biais d'un marché des saveurs régulier, attirer la clientèle sarroise, parce qu'on sait que la clientèle sarroise, elle est attirée par les spécialités françaises. En ce qui concerne l'ANRU,
oui.
Donc l'ANRU, c'est aussi une occasion historique pour que le Wiesberg et une partie de Bellevue puissent redorer leur image, faire en sorte que les habitants s'y sentent bien, qu'ils aient envie de fonder une famille sur place. Et donc, il faut dans un premier temps écouter la population. Donc, nous allons lancer des états généraux du Wiesberg, les états généraux de Bellevue, pour écouter les gens. Et en fonction de ce que les gens disent, on va co-construire le projet. Néanmoins, nous avons déjà quelques lignes directrices. Ce que nous souhaitons notamment pour le Wiesberg, premièrement, c'est de pouvoir rénover les bâtiments, qui est une meilleure isolation et une meilleure accessibilité pour les seniors et pour les personnes à mobilité réduite. Deuxième point, c'est exploiter davantage les espaces verts au Wiesberg, pour que ce soit des lieux de repos pour les familles, qu'il y ait des aires de jeu pour les enfants, qu'il y ait des parcours sportifs pour ceux qui veulent faire du sport.
Oui.
Troisième point, nous souhaitons qu'il y ait davantage d'activités économiques au Wiesberg, et notamment, ce que nous souhaiterions, c'est que dans les tours des Dahlias, il y ait des activités de bureau, des services administratifs ou des services centraux d'entreprises locales, pourquoi pas aussi des plateformes téléphoniques, parce que lorsqu'il y a de l'activité économique dans un quartier, forcément, ça va générer du commerce autour de cela, oui. Pour le boulanger du coin, pour l'épicier du coin, ce sera intéressant. On souhaite aussi rénover l'école du Wiesberg. Alors ça, c'est déjà écrit noir sur blanc dans le projet actuel. Et nous souhaitons faire notamment de l'école du Wiesberg une école moderne à la pointe technologique.
Merci. Question finance maintenant. Où allez-vous faire des économies, dans quel secteur et comment réduire la dette de la ville?
Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la dette de la ville a déjà baissé.
Oui.
Puisqu'elle était en 2008 de 51 millions d'euros et qu'elle est à présent de 37 millions d'euros.
C'est ça, oui.
Aujourd'hui, nous avons un budget qui est de 38 millions d'euros, avec 26 millions en fonctionnement et 12 millions en investissement.
D'accord.
S'il y a une telle disparité entre le fonctionnement et l'investissement, c'est parce que Forbach est une ville de 20 000 habitants, oui, avec des infrastructures d'une ville de 40 000 habitants, mmh, et des moyens financiers d'une ville de 10 000 habitants.
D'accord.
Donc, c'est effectivement assez problématique, et c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas promettre tout et n'importe quoi.
C'est vraiment honnête de votre part.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, il va falloir aussi, je pense, faire un état des lieux sur les finances, sur les finances de la ville, pour faire en sorte de trouver des économies là où il y a lieu d'en faire, ce qui nous permettra d'investir ensuite dans les politiques structurantes, notamment dans l'éducation, parce que l'éducation, c'est notre priorité. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on ne pourra pas mettre en place des projets structurants,
oui,
si nous n'avons pas des partenaires financiers. Aujourd'hui, avoir des partenaires financiers pour la ville de Forbach, compte tenu de la situation budgétaire,
oui, oui,
c'est la condition sine qua non pour réaliser nos projets.
D'accord.
C'est pour ça que, je le disais, l'action cœur de ville, l'ANRU, mmh, demain Terre de jeu 2024 pour les infrastructures sportives, c'est des dispositifs dans lesquels il faut rentrer, parce mmh qu'on a des dotations de nos partenaires pour pouvoir cofinancer tout cela. Mais j'irai même plus loin.
Oui.
Moi, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir créer en mairie un service des affaires européennes, dont l'objectif serait d'assurer une veille sur tous les fonds européens qui existent.
D'accord.
Et pouvoir bénéficier de fonds européens dès lors que nous mettrons en place des projets.
Super. Vous engagez-vous à n'augmenter aucun impôt locaux et aucune taxe locale si vous êtes élu maire?
Alors, il y a deux engagements que nous avons pris.
Oui.
Ce sont d'ailleurs les premiers engagements. Premièrement, nous n'augmenterons pas la dette. Et deuxièmement, nous n'augmenterons pas les impôts locaux. Pourquoi nous ne souhaitons pas augmenter la dette? Parce que si on augmente la dette, on va aussi augmenter ce qu'on appelle la charge de,
d'accord,
la dette,
oui,
qui pèse sur le budget de la ville. Et donc ça, ce serait problématique pour l'entretien de nos infrastructures.
Si vous êtes élu maire, vous... excusez-moi.
Et pourquoi nous ne souhaitons pas augmenter les impôts locaux? Parce qu'il en va du pouvoir d'achat des Forbachois. Aujourd'hui, les impôts locaux sont déjà trop importants à Forbach, donc il ne faut surtout pas les augmenter. Et si nous réussissons à faire des efforts sur le budget de la ville, nous pourrons,
d'accord,
même les baisser.
Super. Vous engagez-vous donc à ne créer aucune autre taxe?
Et je m'engage à ne créer aucune autre taxe.
Et que diriez-vous à nos habitants qui ne souhaitent pas se rendre aux urnes dimanche pour des raisons sanitaires?
Alors, voter est un droit, mais c'est aussi un devoir.
Oui.
Toutes les élections sont évidemment importantes, mais s'il y en a une qui l'est vraiment, c'est l'élection municipale, parce que l'élection municipale, c'est votre quotidien. C'est vos routes, donc votre voirie, c'est les écoles de vos enfants, c'est le cœur de ville, c'est la rénovation des quartiers. C'est donc aussi votre patrimoine, parce que si vous avez une ville qui est attractive, avec de beaux quartiers, avec un beau centre-ville, vous allez pouvoir valoriser votre patrimoine.
C'est
et c'est effectivement très important. Si vous avez un maire qui est responsable, qui a une gestion rigoureuse des finances publiques, eh bien, il va pouvoir, à un moment donné, baisser les impôts. Donc, élire l'élection du maire, c'est une élection qui est importante pour le quotidien de chacun.
Super. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et puis, bonne chance pour dimanche.
Merci beaucoup.
Calmez-vous! Et c'est ainsi que s'achèvent les interviews des candidats pour ce second tour. Merci à tous les auditeurs pour votre écoute. Merci aussi à toi, Vincent.
Merci à toi, David.
Et rendez-vous aux urnes dimanche. Fort FM sera présent pour vous communiquer en direct les résultats sur les réseaux sociaux. On vous souhaite un beau week-end à tous sur Fort FM. Merci.